12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Si vous êtes cinéphile, vous connaissez ces deux réalisateurs américains qui travaillent normalement en duo, les frères Coen. Eh bien, l'un des deux, Ethan, tente ce mercredi une aventure en solitaire avec ce premier long métrage, Drive Away Dolls, un road trip déglingué aux États-Unis. Nos critiques sont dans les starting blocks. Le second film dont nous parlons ce midi s'appelle Agra, une famille indienne du réalisateur indien, donc Kanu Bell. Le portrait d'une famille dans une maison où tous tentent de survivre malgré les pressions sociales.
Et on en parle avec vous, Antoine Guillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma et producteur de l'émission Plan Large sur France Culture. C'est tous les samedis à 14h, je ne me trompe pas.
C'est exact.
Et bonjour à vous, Muriel Joudet.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma au Monde. Bienvenue à tous les deux dans les Midi de Culture.
Nous débutons ce débat critique avec Drive Away Dolls d'Ethan Coen.
I'm leaving town.
I am too. That was my plan. Where are you going?
Tallahassee, Florida. I've been unhappy.
That's why we take this trip together, honey, babe. We get our act together, together.
Curly's Drive Away, Pennsylvania's most trusted name in car delivery.
Curly here.
Don't call me Curly.
And your name, Curly?
My name is Curly. We just met. It's too familiar.
Jamie et Marianne sont amies et toutes les deux ont une vingtaine d'années et vivent à Philadelphie. Elles en sont arrivées à un constat édifiant dès les premières minutes de ce film. Être heureuse, ce n'est pas pour elles. L'amour ne convient pas aux lesbiennes du 21e siècle. Que font alors? Je pose cette question. Deux Américaines dont la vie est au point mort dans un film américain. Un road trip, bien sûr. Les deux jeunes filles louent donc une voiture, partent en direction du sud-est de, du sud de la côte est, direction la Floride. Sauf que, suspense insoutenable, le loueur se trompe de voiture, Jamie et Marianne se retrouvent avec une cargaison dans le coffre qu'une bande de malfrats veut absolument récupérer. Le road movie féminin se transforme alors en course-poursuite totalement délirante. Si vous nous direz dans un instant ce que vous pensez de ce scénario, notons la présence tout de même au casting de Margaret Qualley, qui joue Jamie, et Marianne, incarnée par l'Australie Alien, Géraldine Viswanathan, et on retrouve aussi Matt Damon, Pedro Pascal, Benny Feldstein et Miley Cyrus. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ethan Coen et sa femme, Tricia Cook, se partagent l'écriture du scénario, le montage, mais aussi la production. Ils se sont donc fait plaisir, mais le film fait-il plaisir à voir, Antoine Guillot?
La question du plaisir, précisément, est peut-être un peu au centre de cette émission aujourd'hui, la question du plaisir, du sexe, du trash. Le plaisir, non. On peut le dire tout de suite. Il voilà. Y a peu de plaisir dans celui-ci qui travaille pourtant beaucoup la question du plaisir, puisqu'il y a donc une grande succession de scènes de sexe lesbien et en particulier de cette tarte à la crème qui est aujourd'hui le cunnilingus au cinéma, qui est la scène de sexe obligée parce qu'elle remplit tous les critères de la bienséance d'aujourd'hui. Donc on a ça en permanence. Voilà, c'est une espèce de chose répétitive. Ce qui est très étrange de ce film, c'est qu'il est complètement à compte, enfin, tout en essayant d'être dans l'époque, c'est-à-dire de faire une version queer politiquement correcte de Thelma et Louise, pour résumer en gros, il est complètement dépassé déjà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui revient de loin. C'est un scénario qui a été écrit il y a plus de 20 ans, au tournant du 20e et 21e siècle, comme le moment où se passe le film d'ailleurs, hein, écrit par Tricia Cook, qui devait être réalisé, produit par son mari d'Ethan Coen, et qui devait être confié à d'autres personnes. Puis finalement, ça s'est jamais fait. Et c'est peut-être une bonne idée que ça n'ait jamais été fait. Et on le voit arriver aujourd'hui, comme s'il n'avait plus aucune raison d'être. C'est-à-dire que ce qui, il y a 20 ans, 25 ans, aurait pu être un peu déconnant, un peu trash, un peu provocateur, aujourd'hui a l'air extrêmement borné,
plat,
reprenant des éléments, malgré la grande quantité de Godemiché qu'on voit dans le film, le film est très plat, parce que en fait, tout est éculé. Tout ce qui aurait pu être provocateur à une époque ne l'est plus, et tout ce que ça fait, c'est retravailler une matière qu'on a déjà vue beaucoup chez les frères Coen, reprenant... Alors ça va de Arizona Junior à No Country for Old Men, enfin tout ce que vous voulez, Fargo, on y pense beaucoup, et ça devient en fait une sorte de néo-académisme qui est utilisé par beaucoup d'autres. Il y a eu la série Fargo qui reprend cette idée-là. Maintenant, il y a des jeunes cinéastes qui font du Coen et qui le font mal, et c'est terrifiant de voir Ethan Coen faire lui-même mal du Coen. Alors on peut essayer de comprendre pourquoi, mais ça, nous verrons
cela. On va essayer de le comprendre, vous allez essayer de me l'expliquer. Il semble le renfermer, ce scénario, si j'ai bien suivi Antoine Guillot, Muriel Joudet.
Oui, c'est un objet curieux parce que, comme vous l'avez dit, Ethan Cohen commence à s'émanciper de l'ombre du frère à 66 ans. C'est censé être, dans le duo, le moins réalisateur. Il a commencé à vraiment signer les films, enfin la réalisation en 2004 avec The Lady Killers. Il est plutôt du côté du scénario et Joël serait le metteur en scène.
Oui, à Arizona Junior, c'est d'abord Joël qui réalise et Ethan qui est à l'époque en 87 au scénario.
C'est ça. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi. Il y a souvent comme ça des films des frères Coen qui peuvent être capables du pire comme du meilleur. Et quand ils sont capables du pire, on se dit mais quelle est voilà, l'intention derrière tel film alors qu'ils sont capables du meilleur. Pourquoi ils font ce film? Pourquoi ils s'embêtent à faire ce nanar? Et là, on est vraiment presque dans les, voilà, dans les clous du nanar. Et comme l'a souligné Antoine, on est aussi le cul entre deux chaises, entre une forme et complètement empaillée qui serait donc le road movie néo-noir, enfin vraiment ce qu'ont inventé les frères Coen et ce moment des années 90 où ils débarquent avec aussi Tarantino, Soderbergh, où voilà, ils réinventent une manière de faire du cinéma américain. Et en même temps, ce qui est très hypocrite et insupportable, c'est la manière dont on sent que il y a des cinéastes comme ça où on sent qu'ils se sentent regardés par un public féminin, féministe, on peut élargir même un public woke, entre guillemets, et que du coup, comme ils évoluent maintenant sous le regard de ce public, ils doivent leur donner des gages, ils doivent montrer patte blanche, et le film est extrêmement embarrassant parce qu'en fait, le cinéma des frères Coen est intimement lié à la peur du féminin, à la peur des femmes, à la peur de la grossesse, à la peur des organes voilà, de ce qui se passe dans le corps des femmes. Et là, d'un seul coup, en fait, on a presque un désaveu de ce sur quoi est construit leur filmographie, qui est qu'ils ne savent pas filmer, ils ne comprennent pas les femmes. Les femmes sont pour eux une source d'angoisse, des extraterrestres. Et là, Ethan Cohen vient nous dire à 66 ans, mais si je connais les femmes, et quand il les filme, bah, c'est des camionneuses. En fait, il est obligé d'en faire des hommes, entre guillemets, parce que sa vision des lesbiennes, c'est ça, c'est en gros, bon, faut les pousser jusqu'à que ça devienne des hommes. Et là, il comprend enfin ce que c'est le féminin.
Et donc, même les deux personnages féminins centraux de ce road movie fort éculé, on l'a dit, ne vous ont pas intéressé. Elles sont aussi dans un duo un peu cliché. Il y en a une qui est voilà, intrépide, qui est aventureuse, l'autre qui est totalement frustrée, timorée,
la délurée, la coincée.
Oui, c'est ça. Ce duo cliché ne fonctionne pas non plus.
Bah parce que ça fonctionne en fait sur des recettes d'écriture. Alors là, il ne faut plus séparer l'artiste de l'homme et le couple à l'écran du couple à la ville, parce que Trisha Cook, il faut quand même expliquer qui c'est la monteuse des frères Coen sur trois films, hein, sur The Big Lebowski, au Brother et The Barber. C'est surtout quelqu'un qui se revendique lesbienne depuis avant même d'avoir rencontré son mari Ethan Cohen et d'avoir fait des enfants avec lui. Donc il revendique une sorte de couple un peu spécial où chacun a des partenaires de leur côté. Et donc c'est très clairement le film que voulait faire Trisha Cook depuis des années. C'est raconter sa propre expérience des bars lesbiens à la fin des années 90, début 2000, ce que c'est qu'être une lesbienne dans un monde d'hommes, etc. Bon, très bien. Mais pourquoi le faire alors de façon aussi cliché, aussi bornée dans des formes, là encore, déjà beaucoup vues? Et puis surtout, si on veut faire un film trash qui coûte rien, comme il y en a eu beaucoup, faites un film trash qui coûte rien. C'est-à-dire, ne faites pas venir des stars dedans, avec des coordinatrices d'intimité qui négocient où doit aller le cadre au ras des seins pour surtout qu'on en voit pas. On sent le film extrêmement corseté à cause de ça. C'est-à-dire, peut-être qu'ils auraient dû faire ce film il y a 25 ans, quand le scénario avait été écrit, ne pas le signer de leur nom s'ils voulaient faire quelque chose d'underground et de trash, et ça aurait fait certainement un film beaucoup plus intéressant. Là, on est dans quelque chose de faussement provocateur, qui utilise la provocation comme argument marketing, mais qui est en fait d'une innocuité absolue.
En quoi il est trash? En quoi il se veut trash, ce film, Muriel?
Il y a toujours en fait, c'est l'envers de cette peur des femmes, c'est-à-dire que on est un peu dans le crade, dans l'organique. Donc il y a vraiment ce personnage qui est joué par Margaret Qualley qui pense juste à se mettre à s'enfoncer des trucs entre les jambes. Enfin, il y a vraiment cette idée que j'ai l'impression que dans sa tête, Ethan Cohen se dit ah mais regardez, je vous montre que je suis féministe parce que voilà, je rentre quasiment dans les organes. Donc il y a un truc un peu cradingue dans le film et en fait qui est pour moi l'envers de son angoisse du féminin. Et surtout, si on repense au film, on se rend compte que quand même l'histoire, c'est deux femmes lesbiennes qui cherchent un pénis. Enfin, c'est ça l'histoire, qui cherchent littéralement un pénis. Voilà,
au moins un.
Oui, voilà, au moins un, mais c'est quand même l'idée que voilà, qu'une femme voilà, sera toujours en quête du pénis. On est vraiment dans une sorte de boîte à outils freudienne très très limitée. Et c'est ça que raconte le film. Là où là où je rejoins Antoine, c'est qu'il faudrait limite aller plus loin en disant il fallait pas faire ce film, même à l'époque. Ils auraient même pas pu avoir les moyens de le faire dans les années 90, parce que le film correspond tellement qu'on a même une scène où on voit l'autre héroïne, je sais que j'ai oublié le nom de l'actrice, qui se souvient du moment où elle est devenue lesbienne et qui regarde par un trou sa voisine qui est nue, et on comprend en fait que toute cette scène est là pour illustrer le regard féminin, le female gaze. Enfin, on est vraiment comme ça sur un parcours d'étapes de toute cette boîte à outils pseudo-féministe que les cinéastes, en gros les boomers, se sentent obligés d'appliquer, mais ils y croient tellement pas qu'en fait ça produit l'inverse, ça produit des films, alors peut-être pas misogynes, mais en tout cas, je pense qu'on dit misophobes, quoi. Enfin, vraiment un truc cette vision non aussi est un fantasme en fait.
Parce qu'il y a une forme aussi de femme libre, femme forte, femme solidaire qui est montrée, et à l'inverse, cette espèce de bande de malfrats qui les poursuit sont complètement tous abrutis. Ça, c'est quoi ? C'est la patte de Tricia Cook qui est là et qui essaie de tirer le film vers quelque chose de peut-être de plus engagé entre guillemets, ou de toute façon ça ne fonctionne pas, parce que moi j'ai beaucoup lu de c'est drôle, c'est délirant, c'est divertissant, c'est amusant, on passe un bon moment. Vous, pas du tout?
Non, parce que c'est les arguments, là encore, marketing qui sont sur l'affiche. Une femme forte et des malfrats complètement bracassés, vous n'avez pas l'impression que vous l'avez vu quand même beaucoup. Revoyez Fargo, c'est ce que raconte Fargo, sans avoir besoin du bréviaire contemporain pour nous expliquer de quoi ça parle. Ça parle pour soi et c'est extrêmement maîtrisé. Donc, quand je vous dis qu'on se tombe dans son propre répétition, son propre académisme, ça, je le crains. Après, moi, je trouve qu'il y avait potentiellement un film intéressant dedans sur une figure qu'on voit seulement 5 minutes, qui est joué par, non pas Sayle Mirus, mais Miley Cyrus.
Merci.
Qui s'appelle Tiffany Plastercaster et qui est inspirée de quelqu'un qui existait en vrai, qui s'appelait Cynthia Plastercaster, et qui, dans les années 70, a fait des moulages des organes masculins de toutes les stars de l'époque, à commencer par Jimi Hendrix, et ce serait une histoire formidable à raconter. Ça recouperait un peu ce que faisait Nina Tico dans sa BD Hotel California, et voilà le film à faire aujourd'hui.
Alors, je crois qu'on dit gynophobe, je me corrige moi-même. Bon, je
vérifier. Merci, Muriel.
Et oui, non, c'est, alors les petits interludes psychédéliques, je pense, donc on a parfois comme ça des moments.
Des apparitions, ouais.
Des apparitions un peu sous LSD, comme ça, avec des pizzas géantes, Miley Cyrus qui débat. Là, c'est vraiment, moi, c'est les moments les plus gênants de ringardise.
Ah non, il y a encore mieux, il y a les volets mécaniques entre les séquences, et on sent que Trisha Cook est une monteuse au départ, parce que là, vraiment, elle s'est fait plaisir, et c'est très, très laid. Les volets mécaniques, vous savez, c'est la façon dont on enchaîne deux séquences avec une partie de l'écran qui descend, l'autre qui monte. Et c'est une accumulation.
C'est très années 80.
Très, très ringard.
Une
quoi.
Accumulation de plus en plus ringarde. Non, c'est pas très années 80. C'est vraiment le moment où arrive le montage vidéo et les monteurs commencent à s'amuser avec. Donc c'est plutôt le milieu des années 90. Là encore, on ne s'en sort pas.
Et c'est vrai que donc le film est très ringard, puis essaye d'exploiter l'énergie d'un film comme The Big Lebowski. Donc il y a vraiment une fausse vitalité. Et je pense que c'est à l'image du film, on sait pas très bien dans quelle époque on est. Est-ce qu'on est dans les 90, dans les années 70, est-ce qu'on est à aujourd'hui? Et en fait, le film, son temps et son espace, c'est le cinéma des frères Cohen, mais vraiment empaillé, quoi. C'est ça qui... Mais c'est très bizarre cette manière d'être nulle part, alors que et d'être à la fois dans les années 90, à la fois aujourd'hui. Et ça, je pense, c'est un des problèmes du film.
Et ce sera certainement le problème du prochain, puisqu'ils sont déjà sur le tournage de leur prochain film.
Il paraît qu'ils vont se remettre ensemble, les frères Cohen, donc tous les espoirs sont permis. Who are you? Democrats. Wow, you've had a full day.
Drive Away Doll, c'est d'Ethan Cohen et c'est en salle aujourd'hui.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent du film Agra, une famille indienne, du réalisateur Kanu Bell.
Il est pretty. Mais je suis marié. इससे छत वापस लगेगी हमारा कमरा बनेगा इधर
तो फिर कोई तो होगा जो इसका कच्चा चिट्ठा रखता होगा अपने पास
बोला है तू बॉस
बात यहाँ सारी छत की है बेटा
एक साथ सारी प्रॉब्लम निपटा
आगरा Agra, une famille indienne, est un portrait, celui d'une famille installée dans la troisième ville de cette région de l'Uttar Pradesh dans le nord-est de l'Inde, connue région et ville plutôt dans le monde entier pour abriter le Taj Mahal, connu en Inde pour son plus grand asile psychiatrique, et ça, son importance, on va y revenir. On fait donc la connaissance de Guru, un jeune homme qui vit encore chez ses parents, comme de nombreux jeunes hommes, d'une vingtaine d'années, dans des conditions étouffantes, une maison de ville à plusieurs étages. Au rez-de-chaussée, Guru vit avec sa mère, son père, lui, vit à l'étage avec sa maîtresse. Les règles sociales en guise de couvercle, sur cette cocotte minute, prête à exploser à tout instant, d'autant plus que Guru, en recherche permanente d'intimité, cherche à assouvir ses pulsions sexuelles. Il se dit amoureux d'une de ses collègues qui travaille avec lui dans ce centre d'appel, un fantasme, mais passe son temps à se masturber dans les WC et à chatter avec d'autres femmes sur des applications. La tension monte au fur et à mesure du film, la violence physique et verbale explose à plusieurs reprises, le quotidien est un cercle infernal. Puis, tout semble s'apaiser quand Guru trouve enfin sa fiancée et qu'il peut mettre en place et en marche son projet immobilier, construire sa maison, l'échappatoire, première brique dans un édifice où la corruption est omniprésente. Qu'avez-vous pensé, Muriel Jaudet, de cette nouvelle chronique indienne, si je puis dire, et de ce film qui, malgré mon explication, est très cru aussi?
Oui, très cru. Alors, le réalisateur raconte qu'il est dans une résidence d'écriture et qu'il a été aidé par la monteuse de Lars von Trier, qui lui a dit « Non mais vas-y Franco sur les scènes de sexe ». Et c'est vrai qu'à un moment, je pensais à Lars von Trier. On est vraiment quand même très loin de son univers, mais je me suis dit à quel point j'étais là. Ah, quand même, ça fait, c'est fou comment le sexe a disparu, même du cinéma d'auteur, sans parler du cinéma pas d'auteur, enfin, des mainstream. Et c'est pas le sexe pour le sexe, c'est-à-dire le sexe comme dimension tout aussi importante dans la vie des personnages et des êtres humains. Le sexe comme aussi outil narratif. Et là, ce qui est beau dans le film, donc il y a vraiment beaucoup de scènes de sexe.
On est servi, oui.
Voilà, qui sont brutales, qui sont très frontales. Le film s'ouvre sur un rapport sexuel avec un écureuil, enfin un rêve comme ça. C'est pas la meilleure manière de commencer un film.
Il faut passer cette scène si ça vous arrête, oui, dans le film. Il faut film, ensuite, oui, avancer.
Il est de moins en moins énervé, coléreux. Il y a une sorte de progression comme ça. Mais disons que bon, je vois cette scène d'écureuil, je me dis à la fois bon, quand même, ça change. Il se passe quelque chose, quoi. En fait, c'est ça. Il se passe quelque chose. Tout n'est pas parfait. Le trait est parfois un peu gras. Mais on est déjà. Ce qui fait du bien, c'est par rapport au film d'Ethan Cohen, c'est que là, il y a un cinéaste qui ne s'excuse pas de filmer ce qu'il filme. Il filme vraiment la psyché d'un homme. Alors je lisais dans des critiques qu'il s'agit d'un incel, comme si être obsédé sexuel ou miséreux affectif, c'était haïr les femmes, alors que pas du tout, c'est quelqu'un qui est complètement réprimé, et même quand il se masturbe vraiment de manière frénétique en chattant, ces scènes sont belles parce qu'on sait exactement ce qu'elles expriment, et c'est quelque chose d'existentiel, c'est pas juste de la provoque pour de la provoque. Et donc on a ce personnage pour qui le sexe est peut-être la seule échappatoire, c'est peut-être la seule chose qui lui reste à vivre dans un univers général qui est, je crois qu'on voit très très peu le ciel dans le film, vraiment tout de béton et de transactions, hein, les rapports entre les gens, dans les familles, c'est vraiment tout le temps des rapports transactionnels.
De négociations permanentes, voilà, sur tel espace dans la maison, hein, ce lieu de la maison est un lieu important.
C'est pas pour l'espace, hein, c'est pas juste quelque chose qui se passe en Inde, on vit ça à Paris, on vit ça partout, donc je trouve ça très juste sur comment le rêve des gens est devenu seulement un rêve immobilier. Comment, en fait, le seul rêve qu'on peut avoir, le seul destin qu'on peut avoir, c'est un destin immobilier. Et ça, il le montre très bien avec l'érection de cet immeuble et cette manière de filmer, de faire un film un peu moche, quoi, aussi. Le béton envahit l'espace, envahit le paysage. Et donc, le sexe, là, a toute sa place puisqu'il est le seul rêve possible, en fait, pour ce personnage.
Et ce personnage qui est donc à la recherche d'espace, d'intimité dans cette maison, Antoine Guillaume. Il y a une violence très forte, verbale, physique, dès le début de ce film, qui concentre effectivement, peut-être en forme de métaphore aussi de la société indienne.
Oui, enfin de la société mondiale, moi je dirais, c'est-à-dire que on est très très énervé, quoi. Mais comme si vous vous promenez dans Paris, si vous allez dans un métro à l'heure de pointe, si vous êtes à un moment où il y a des soldes, la guerre de l'espace rend les gens très très énervés. Et c'est ce que je trouve passionnant dans ce film, au-delà effectivement de sa frontalité, de sa crudité, qui peut renvoyer à la comédie italienne la plus féroce, genre Afro, sale et méchant. Enfin, il y a vraiment ce niveau-là où on se traite des pires noms possibles à l'intérieur même d'une famille. C'est vraiment des questions basiques d'espace, donc de mise en scène. Et c'est ça qui est passionnant dans ce film, c'est qu'il se pose des questions très concrètes. Qu'est-ce que c'est quand on habite, quand on est les uns sur les autres, quand les seuls regards qu'on a sont toujours bloqués par un mur ou par une grille ou par etc. Qu'est-ce que c'est qu'un espace horizontal? Qu'est-ce que c'est qu'un espace vertical? Qu'est-ce que ça a comme charge métaphorique, évidemment, du côté érection d'un côté, profondeur vaginale de l'autre. Enfin, c'est très clairement montré comme ça, mais c'est très intelligent la manière dont c'est fait. Et c'est comme si au début il nous disait, bon, je vous lance cette fameuse scène de l'écureuil pour vous dire, regardez comme j'y vais, etc. Façon de faire passer des choses beaucoup plus subtiles en fait, par des pures questions de mise en scène. Ça, c'est assez passionnant. Ensuite, il y a cet homme, ce gourou, ce personnage de gourou qui est quand même montré comme un personnage impossible dès le début. Il fait tout pour nous le faire détester, jusqu'à une scène de viol particulièrement malaisante. Mais là encore, par l'intelligence de la mise en scène, par la façon dont est filmée cette scène de viol, où on n'est pas soit du côté de l'agressé, soit du côté de l'agresseur, mais dans un constat de société qui est quand même dans le pays, l'Inde, où on entend sans arrêt des histoires de viols monstrueux, enfin des histoires atroces qui arrivent en permanence et en particulier à Delhi, mais un peu partout dans le pays, à cause de cette frustration et de cette frustration à la fois de l'espace, du désir, de la possibilité de vivre simplement quelque chose à soi sans s'enfermer dans les toilettes. Le point de vue qu'il a sur cette scène est d'une justesse totale. C'est-à-dire qu'on est à la fois, c'est horrible ce qui se passe, c'est lamentable et c'est le produit d'un défait extérieur qui influe sur la psyché de ce jeune homme. Et alors, ce qui est encore plus terrifiant, c'est que une fois qu'on a passé ces 40 minutes à peu près où on a scène vraiment d'une violence,
il y a le suicide.
Tout d'un coup, on a l'impression que les choses commencent à s'arranger, sans doute parce que le personnage a commencé à prendre des médicaments qui calment, ce qui est quand même manifestement une psychose totale. Et alors, le film commence à aller sur des rails vers une résolution, et plus ça avance, plus la résolution arrive, plus on est halluciné quand même par ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est encore plus violent la manière dont tout a l'air tout à fait tranquille et on négocie, on s'arrange pour arriver vers une fin que je ne dévoilerai pas, mais que je trouve précisément de plus en plus terrifiante parce qu'elle a l'air tout à fait normale. Et ce retour du normal a quelque chose d'atroce.
C'est ça le trajet dans ce film, c'est-à-dire qu'on est dans l'intime, dans l'intérieur, enfermé dans cette maison, et au fur et à mesure on en sort effectivement de cette maison. Mais pour voir quoi du coup, Muriel Joudet?
Bon, on voit, je pense qu'on passe aussi de gourou à sa famille, c'est-à-dire que c'est là que le titre français, voilà.
Agra, une famille indienne.
Voilà, insiste sur une famille indienne. Et là aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans le point de vue de ce héros. Et moi, j'aimerais juste signaler les scènes où il croise le regard d'une femme à plusieurs reprises, que je trouve très très belle. À un moment, il croise une très jolie femme dans un coffee shop. Mmh. Elle s'assoit et la scène est très très érotique. Et lui, on sent que, enfin, voilà, pour le dire crûment, il veut se branler là, dans la rue, quoi, en la regardant. Et c'est très, on est presque dans du Eustache, quoi. Enfin, des choses qui ont complètement déserté, qui n'existent plus aujourd'hui dans le cinéma et qui, voilà, j'insiste, me manquent. Et donc, il y a ce portrait aussi, donc il y a ce point de vue très masculin, très, très crado, mais en même temps, le film est assez imparable sur la manière dont un système patriarcal vraiment pressurise les femmes, leur retire toute possibilité d'existence, d'émancipation, puisque le père de Gourou a deux épouses, enfin une épouse, une maîtresse, et il veut bientôt installer sa nouvelle maîtresse, sa deuxième maîtresse, dans le nouvel immeuble qu'il veut construire. Donc on est vraiment... le film ne choisit jamais entre son point de vue féminin ou son point de vue masculin. Aussi, la femme dont tombe amoureux Gourou, qui boite un peu, aussi a un point de vue très beau, est un personnage très beau. Donc on a ce point de vue masculin au début très affirmé, très agressif, mais qui est sans cesse rediscuté par l'apparition des personnages féminins. Et la fin donne un paysage, enfin une sorte de métaphore de l'Inde qui me paraît assez, assez complète. En tout cas, on ne ressort pas en se disant qu'un personnage a gagné contre un autre.
Qu'est-ce qu'il dit, le cinéma de Canouvel? C'est son deuxième long métrage. Le premier était déjà une chronique indienne, c'était même le titre, puisque ça racontait l'histoire d'un jeune homme qui lui aussi tentait de survivre face à une police corrompue, face aussi à la violence de braqueurs. Voilà, ça c'était en 2014, il y a 10 ans. 10 ans après, il propose le même genre de film.
En tout cas, c'est un cinéma assez énervé en général, qui n'a pas peur de dire les choses. donc qui n'a pas peur de parler de la société indienne, mais qui n'a pas peur aussi de faire un cinéma différent de ce qui se pratique en Inde. On a eu régulièrement, on nous dit, ah voilà, enfin, le cinéma qui n'est pas...
On est loin de Bollywood. Alors, voilà,
généralement, ce sont des chroniques un peu, ce qu'on appellerait la pornographie, la pauvreté, enfin, qui nous montrent des situations très difficiles et des gens qui s'en sortent. Lui, il veut pas se contenter de ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie analyse politique qui est très pointue, mais qui n'est pas étanche au cinéma bollywoodien, puisque, par exemple, l'actrice qui joue la femme dont il tombe amoureux, on ne sait pas s'il y a amour. En tout cas, il y a négociation de l'espace qui aboutit à un projet commun. On peut appeler ça de l'amour. Et elle-même, une star du cinéma de Bollywood, qui joue vraiment. Elle avait joué dans Lion récemment, qui est un personnage extrêmement sexy et glamour dans le cinéma de Bollywood et qui, là, n'a pas peur, justement, de jouer ces scènes de sexe qui sont absolument incroyables, qui montrent la violence qu'il y a en général dans la société, mais dans les rapports humains aussi, et dans les rapports amoureux parfois. Donc ça, tout ça de façon fine et complexe, c'est assez passionnant.
Sur le visage de l'Inde que nous montre Canobel depuis une dizaine d'années.
Je pense que ce qui fait plaisir, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir un film indien pour les Occidentaux. Enfin, moi, j'ai pas eu ce sentiment-là de ah voilà, je vais plaire à un public de festival et tout ça. J'ai eu l'impression d'un objet très cru. Moi, je m'étais quand même arrêtée à Satyajit Ray, à des cinéastes très polissé de la société indienne telle que je la fantasme, et quelque chose de très polissé où les conventions et les traditions prennent le pas sur le reste. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui rentre comme ça dans mon imaginaire, qui me dit mais en fait, t'as un imaginaire d'occidental. Et donc, pour moi, c'est ça, une des forces du film, c'est de ne pas essayer de plaire à un public préconçu occidental.
C'est en salle aujourd'hui, Agra, une famille indienne, du réalisateur Canobel. Merci à tous les deux, Muriel Joudet, on vous lit dans Le Monde, Antoine Guillaume, on vous retrouve samedi à 14h dans l'émission Plan Large sur France Culture. Un tout dernier mot pour vous dire que si vous êtes étudiant et que vous souhaitez participer au prix cinéma des étudiants France Culture, vous avez jusqu'au 7 avril. Il reste quelques jours jusqu'à dimanche pour vous inscrire. Vous voyez toutes les modalités d'inscription et de participation à ce prix sur le site franceculture.fr.